With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour, bonsoir, bienvenue. Ceci est un podcast de l'École Pro du Centre Pompidou pour mieux comprendre les mutations du monde du travail. Vous êtes au cœur du Musée National d'Art Moderne, dans la salle 3-8, conçue par l'architecte Léopold Banchini, en collaboration avec Laure Jaffuel. Ici, des professionnels de tous horizons participent à des formations qui mettent l'art en dialogue avec les entreprises et les organisations. Espace vide, mur blanc, dalle de moquette grise. Stop ! On ouvre les trappes au sol et tout se transforme. L'esthétique du bureau est sans dessus-dessous. Alors on lève la tête du guidon, on sort des sentiers battus. En art, il faut accueillir l'inconnu et regarder autour de soi pour renouveler ses pratiques et inventer de nouveaux modèles. Vous écoutez le troisième numéro d'une série de trois podcasts de l'École Pro du Centre Pompidou. Aujourd'hui, le numérique, du nouvel Eldorado au cauchemar contemporain. Quatre regards croisés sur la transformation numérique. Nous serions-nous trompés de révolution ? D'un projet collectif émancipateur au début d'Internet, le numérique serait devenu le vecteur du pouvoir, à la fois économique et politique. Aujourd'hui, le numérique est tout à la fois synonyme de surveillance, de propagande, voire de censure. Et les promesses de la dématérialisation ont cédé le pas face à la prise de conscience de son impact écologique. Il existe pour autant des territoires où il demeure une puissante force émancipatrice. Alors comment penser la question numérique aujourd'hui ? Quelles images de ce monde en pleine mutation nous offrent les artistes qui investissent ces nouvelles technologies ? Dans quel sens évoluent nos représentations du numérique ? L'Eldorado, longtemps fantasmé, serait-il en train de devenir notre cauchemar contemporain ?
Découvrir, révéler, traduire,
pas de côté,
inventer,
futur,
alternative, avenir,
habiter,
déviation,
durée,
regarder,
fiction,
interception,
disruption,
passé,
recommencement,
recommencement,
innovation,
destitution,
intuition,
rupture,
big data,
love,
flex,
big,
smart,
city,
cité,
futur,
passé,
durée,
fiction,
technologie,
ontologie,
les deux
sens
de la flèche
du temps.
Je suis pas sûr que le numérique ait été considéré uniquement comme un Eldorado pendant si longtemps. Il a été aussi le cauchemar de certains. Aujourd'hui, il est aussi considéré encore comme un Eldorado. C'est pas des nouvelles histoires, les questions numériques. Enfin, en fait, ça réinvestit dans des technologies qui, elles, sont un peu nouvelles, des histoires qui ont toujours été les histoires des pays, des conformations politiques et culturelles.
Xavier Delaporte est journaliste spécialisé sur les questions numériques. Il anime la chronique « La fenêtre de la porte » tous les mardis dans l'Instant M sur France Inter. Il vient de lancer « Le code a changé », un podcast en 20 épisodes sur les questions numériques.
Dans les années 60, 70, 80, 90 encore, l'idée que le numérique était porteur d'utopie démocratique, d'émancipation, d'autres systèmes d'organisation de la vie, de diffusion du savoir, et pour certains d'entre eux qui ont œuvré à la mise en place de ce type d'utopie, ont été très largement déçus. Aujourd'hui, on trouve de manière assez étonnante, parmi les plus grands pourfendeurs du numérique, des gens qui ont été ses plus grands promoteurs.
Le numérique ne serait-il pas le coupable idéal ? Le désigner comme responsable de tous les maux de la société serait aller trop vite en besogne. Mais ce qui est certain, c'est que la question numérique fait aujourd'hui débat. Impact écologique, guerre de l'attention, ubérisation, collecte massive des données, les pathologies qu'on lui attribue sont nombreuses. Le numérique ne serait-il pas en pleine crise existentielle ?
Il y a deux phénomènes, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène de démocratisation qui fait qu'on mesure ce que le numérique peut nous coûter à mesure qu'il s'incorpore dans nos vies. Tant que c'était un truc d'élite, ça faisait peur aux politiques, aux masses, aux pouvoirs de toutes sortes. Mais il était porteur de certaines utopies. Et puis, à mesure qu'il est rentré dans nos villes, il est aussi rentré dans un système. Enfin, voilà, et quand Bruno Patino dit qu'il craint pour l'avenir du numérique, il craint en fait pour un système. C'est-à-dire, c'est l'appropriation des technologies par un système, en gros, qu'on peut dire capitaliste, qui utilise des technologies qui en elles-mêmes ne sont pas forcément néfastes. Les pathologies, elles sont extrêmement diverses. Hein, c'est-à-dire que vous avez des choses qui ressortissent à comment fonctionnent nos esprits, nos cerveaux. La question de l'attention, par exemple, c'est une question de mémorisation, d'apprentissage, et ça pose des questions. Enfin, un enfant, même sans reprendre les arguments très catastrophistes de Démurger dans son livre « La fabrique des crétins ».
La fabrique du crétin digital est un ouvrage du neuroscientifique Michel Démurger, paru en août 2019 aux éditions du Seuil.
C'est sûr que si vous confiez l'éducation d'un enfant à une tablette, bon ben, ça donne pas forcément des résultats qui sont extraordinaires. Bon, donc il y a des questions qui sont des questions cognitives, cérébrales, etc. Il y a des questions qui sont des questions politiques. Enfin, quand je dis politique, c'est à mi-chemin entre le politique et le journalistique ou l'information au sens large, etc. C'est vrai que la question des fake news, des deepfakes, c'est une question. La technologie participe à une recomposition de l'espace politique dans laquelle la question de la vérité est devenue problématique. Ça n'est pas uniquement lié au numérique, mais c'est lié au numérique. Voilà. Ça, c'est une pathologie qu'on pourrait dire une pathologie politique. Je pense que la manière de faire de la politique aujourd'hui, elle est extrêmement différente qu'il y a quelques années à cause de ça. Après, il y a des pathologies qui sont des pathologies environnementales, on pourrait dire. C'est évident que à mesure que la part des technologies augmente dans, par exemple, notre consommation d'électricité, pour ne prendre qu'un aspect des questions environnementales que pose le numérique, c'est sûr que ça pose des problèmes de plus en plus grands. Il va falloir alimenter tout ça, quoi. Enfin, c'est une dépendance énergétique qui est gigantesque, sans compter la question des déchets. Donc voilà, on pourrait dire qu'il y a des pathologies qui sont des pathologies qui suivent toutes les strates de la manière dont le numérique agit et intervient dans nos vies. Ce qui est très intéressant, c'est comment est-ce que des nouvelles formes d'organisation du travail, parce qu'il y a quand même des nouvelles formes d'organisation du travail, par exemple, ce qu'on appelle l'ubérisation, mais qui est en fait des gens qui travaillent sous la direction d'un algorithme, on pourrait dire. Évidemment, il est programmé par des hommes, mais enfin, voilà, leur interlocuteur, c'est un algorithme. Ça induit quand même des nouvelles organisations, et notamment le fait d'être seul. Et donc, ce qui est intéressant, c'est comment ces formes d'organisation, en fait, elles nécessitent de la part des travailleurs, qui sont pas forcément des salariés, etc., aussi des nouvelles formes d'organisation, parce qu'ils se heurtent à des problèmes qui sont en fait des vieux problèmes, qui sont des problèmes de négociation, des décisions unilatérales, je sais pas, du prix d'une course chez Uber, par exemple. D'un coup, ça va baisser, augmenter, les mecs peuvent rien faire, de toute façon, ils allument leur machin, le prix de la course a changé, voilà. Et qu'en fait, les gens, ils sont comme de tout temps, ils se disent, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Et donc, ils essayent de retrouver des formes de collectif, quoi. Et qu'effectivement, on voit réapparaître des formes de collectifs qui sont soit des syndicats un peu à l'ancienne, soit des groupes de soutien, enfin, je sais pas comment on pourrait appeler ça, etc. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant parce que ces gens-là, ils vont à la fois redécouvrir des très vieilles formes d'organisation et en même temps avec des nouveaux outils, des nouvelles formes d'action, etc. C'est vrai qu'il y a un mélange, comme dans beaucoup, beaucoup d'aspects du numérique, à la fois un mélange de très nouveau et très ancien. Ce dont on a pris conscience progressivement pour ce qui est du numérique, c'est de la part de politique qu'il y avait, quand je dis politique, c'est dans un sens très large, dans la programmation. C'est-à-dire qu'on a mis un peu de temps à comprendre que programmer, faire un programme informatique, et ça c'est valable aussi bien pour un réseau social que pour un programme d'intelligence artificielle par exemple, c'était une activité politique. Bon. C'est une activité politique parce que un programme fabrique des lois. Donc détermine ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Par exemple, dans un réseau social, le fait de pouvoir partager un contenu, de pouvoir liker et pas disliker, ou alors de pouvoir liker ou disliker, ça va induire tout un type de comportement qui vont définir la manière dont les gens vont communiquer entre eux. Et ça, c'est une forme de loi. De la même manière, dans un programme d'intelligence artificielle, alors là je reprends un vieil exemple, mais qui est celui des voitures autonomes et la fameuse question de savoir de comment on programme une voiture autonome, par exemple quand elle doit faire un choix entre tuer un passant ou alors aller se foutre dans un arbre. Ça se programme. Et donc c'est un choix qui est un choix politique, éthique, morale, etc. Et ça, on prend conscience progressivement avec l'entrée des technos dans tous les aspects de nos vies, qu'en fait elle recèle de la politique qui se loge dans la programmation.
Ubiquitaires, liquides, diffuses, les nouvelles technologies irriguent désormais notre quotidien. Cette impression de saturation alimente un mouvement de fond qui fait de la critique des nouvelles technologies un objet de réflexion. Une critique dont les artistes se sont emparés.
En France, on a vu apparaître au début des années 80 un groupe. Alors, autant que je le sache, les membres sont restés anonymes jusqu'à ce jour, donc qui s'appelait le Clodo, et qui a organisé 6 ou 7 actes de vandalisme directement adressés aux ordinateurs. Donc, il y en a eu, je crois, à Toulouse, il y en a eu dans d'autres endroits. Ils ont brûlé, ils ont saccagé. Et donc, l'idée était de dire l'ordinateur est un outil à la fois d'aliénation et de surveillance. Enfin, je ne sais pas si cette tradition ludite, d'ailleurs, elle perdure vraiment aujourd'hui. Alors, on le voit dans des actes de hacking, par exemple, d'une certaine manière, certains actes de hacking ou artistico-hacker parfois rejouent ce côté-là. Dernièrement, ça a beaucoup tourné dans les réseaux. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que ça tourne toujours beaucoup dans les réseaux. C'est-à-dire avec une sorte d'effet paradoxal qui est que les gens qui passent leur vie dans les réseaux font tourner beaucoup de vidéos ou de contenus comme ça qui montrent comment les technologies sont nulles. Et en l'occurrence, avait beaucoup tourné une vidéo d'un artiste qui s'était amusé à trimballer dans une sorte de petite gadget à roulettes une centaine de téléphones comme ça qui du coup perturbaient le programme de GPS et d'organisation de la circulation de Google. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il faisait apparaître un encombrement dans une rue où en fait, lui, il était simplement à trimballer 90 portables, ce qui donne l'impression à l'algorithme qu'il y avait 90 bagnoles et qui du coup marquait la rue comme encombrée. Et donc, il montrait que c'était à quel point les machines étaient connes. Et donc ça, c'est des pratiques qui sont rigolotes ou intéressantes parce que elles sont, c'est pas casser la machine, voilà, mais c'est montrer à quel point elle est faillible, à quel point elle est fragile, à quel point elle est parfois ridicule aussi. Pareil, dans le même ordre d'idée, à un moment étaient organisées des compétitions de robots humanoïdes. Des équipes programmaient des robots pour qu'ils soient capables de faire toute une série d'actes un peu humains, c'est-à-dire monter des marches, courir, sortir d'un endroit, passer de assis. Bon. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que parmi ces robots, en fait, il y en a plein qui se plantent quoi, tout le temps, mais qui se plantent dans des gestes quoi, qui sont vraiment très drôles. C'est-à-dire que tout à coup, le robot s'arrête, se fige et ponk, il tombe en arrière, voilà, ou alors il tombe sur le devant, ou alors il heurte comme ça, mais 100 fois le même. Bon. Et ça, on adore montrer ça, on adore regarder ça, et moi, ça me semble presque plus opérant, disons, comme type d'image ou d'imaginaire, que le truc de juste péter des écrans ou des machines, etc. Parce qu'en plus, après, bon, qu'est-ce qu'on en fait, où on les fout, et si c'est pour les envoyer en Inde, qu'elles soient dépecées par des enfants pieds nus, voilà, c'est pas forcément le truc le plus intéressant qui soit, quoi.
À la fois puissantes et faillibles, les technologies du numérique ont bel et bien bouleversé nos manières de penser, de travailler, de communiquer, de nous déplacer et même de nous rencontrer. Qu'en est-il du monde de l'art ? Et comment les artistes investissent ces nouvelles technologies, tout à la fois outils, médiums et objets de réflexion critique ? Marcella Lista est conservatrice en chef, elle dirige la collection Nouveaux Médias du Centre Pompidou.
Le numérique, c'est un champ très très vaste en fait, que l'on peut à la fois considérer comme un outil hein, qui s'inscrit dans une suite de chaînes techniques qui apparaissent à partir de la photo, le mécanique, le film, l'électronique, qui se développe dans les années 90 sous la forme des médias interactifs qui intéressent un certain nombre d'artistes, CD-ROM, DVD-ROM, jusqu'à conduire au tournant des années 2000 avec une pratique très très large de sites internet d'artistes, œuvres interactives diverses. Mais le numérique, c'est aussi une manière de former des sons et des images qui va donner lieu, je dirais, à l'intérieur des formats déjà existants, hein, de la musique, du film, des nouveaux procédés pour produire ces contenus.
Pour autant, y a-t-il un art que l'on pourrait qualifier de numérique ? Cette appellation a-t-elle un sens ?
Le problème, c'est que ça recouvre des pratiques extrêmement différentes, voire incompatibles. Donc à la fois la possibilité de travailler avec des images de synthèse pour produire, mettons par exemple, de l'animation numérique, donc l'animation générée par ordinateur. Est-ce que ça ne s'inscrit pas finalement dans la continuité du dessin animé ? Enfin, je veux dire, il n'y a quand même pas une rupture, je dirais, extraordinaire à ce niveau-là. Il y a juste de nouveaux outils mis à la disposition des artistes. Et de l'autre côté, il y a tout l'autre pan de la création qui consiste à travailler avec l'interactivité, donc un des dispositifs entièrement ouverts qui sont tantôt basés précisément sur des bases de données, sur des algorithmes qui permettent des évolutions ouvertes, indéterminées, aléatoires, qui permettent aussi l'intervention extérieure d'autres acteurs dans l'œuvre. Donc voilà, on assiste quand même à une telle variété de choses qu'il est, il me semble un petit peu compliqué d'utiliser ce terme d'art numérique sans un peu de recul critique. Cette question de l'art numérique, elle est assez contestée en fait dans le milieu muséal pour diverses raisons. On ne parle pas d'art électronique. Un art ne peut pas se limiter, je dirais, à sa définition à partir d'une la technologie ou des technologies qu'il emploie. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un grand engouement autour de cette fiction qui est celle d'un art numérique. Un musée comme le Musée national d'art moderne a entrepris de collectionner assez tôt des nouveaux médias tels que CD-ROM, DVD-ROM dans les années 90. Il s'avère que ces médias sont très difficiles aussi à conserver. Il y a toutes sortes de problèmes d'émulation, de migration qui se posent, où il s'agit de ne pas trahir le geste originel de l'artiste. Souvent, on est face à des questions de réinterprétation de ces gestes. On est face à des questions partagées, par exemple, avec celle de la performance, où il s'agit de relire, de faire revivre une œuvre à des années de distance, avec d'autres outils, un autre corps, si j'ose dire, médiatique. Et par ailleurs, il y a aussi une grande ambiguïté sur ce qu'on entend par art numérique du point de vue justement de ces acteurs. Il y a d'une part beaucoup d'artistes qui travaillent vraiment dans les marges, je dirais, de l'institution, qui utilisent le champ de l'Internet notamment pour produire des choses assez fascinantes, passionnantes. Un critique comme Lev Manovitch, par exemple, qui est un grand spécialiste des nouveaux médias, soutient que ce n'est pas le rôle des musées que de courir après ces formes d'art éphémères, qu'il faut en respecter le caractère fugitif, le caractère insaisissable. Tout cela pour dire que le mot ne fait pas consensus. Il y a par ailleurs beaucoup d'artistes qui travaillent simplement avec leur ordinateur pour produire ce qu'on appelle du media art, c'est-à-dire des formes d'art qui utilisent tous les outils de bureautique et tous les outils algorithmiques qui sont permis aujourd'hui par l'informatique. Mais voilà, il n'y a pas de définition pour moi qui puisse être arrêtée.
L'art ouvre une fenêtre pour questionner notre quotidien entièrement irrigué par les technologies numériques. Comme c'est le cas avec le sujet de la collecte, de l'analyse et de la transformation des flux de données, qui est un enjeu central aujourd'hui, tant pour les entreprises que pour les institutions.
Beaucoup d'artistes s'intéressent aujourd'hui au big data, donc ça c'est quand même un sujet qui attire un regard à la fois une démarche d'exploration d'une réalité inconnue, qui est une nouvelle représentation du monde, qui est totalement abstraite, qui est une représentation par données et non plus par images. Donc il y a un déplacement total du paradigme photographique vers une autre manière de restituer, de traduire le monde. Une artiste comme Hito Steyerl, à laquelle le Centre Pompidou consacrera donc une exposition, est une artiste qui veut vraiment aussi montrer la réalité qu'il y a derrière ce mirage numérique, c'est-à-dire comment ces données sont manipulées, comment la reconnaissance faciale, la collecte de données à toute fin de manipulation des comportements et du conditionnement des comportements et de la consommation notamment et des idées, va vraiment conduire, je dirais, l'humanité dans des nouvelles formes de régimes totalitaires qui ne disent pas leur nom.
L'un des artistes à s'emparer de ces sujets est l'artiste sonore et visuel Ryoji Ikeda. Ses installations audiovisuelles étaient présentées au Centre Pompidou en 2018 à l'occasion du cycle Mutation-Création. L'œuvre Test Pattern 100 propose une immersion sensorielle dans notre monde saturé de données.
Ryuji Ikeda est un artiste autodidacte qui vient en fait de la musique électronique, de la scène underground de Tokyo des années 80. il a un rapport à la scène, au vivant, et à cette idée effectivement d'une tension, hein, de l'expression d'une tension. Il utilise le son et l'image pour mettre en tension ce sentiment justement d'être totalement dépassé par l'univers des données. Il a commencé au tournant des années 2000 toute une série d'œuvres dont le titre commence par Data et qui sont exclusivement basées, hein, sur des collectes de données qui viennent du champ militaire, du champ de l'astronomie, du champ de la physique, de la médecine, et qui effectivement petit à petit renseignent en fait tous les domaines de la vie sur Terre. Son travail consiste à réunir des masses incommensurables de données pour restituer dans son œuvre quelque chose qui pour lui relève du sublime, c'est-à-dire de quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse la capacité de perception humaine. Hein, et c'est ce côté hors échelle en fait qu'il veut rendre à travers ces pluies de données auxquelles on assiste dans son travail sonore comme dans son travail visuel. Ce qui est très très beau dans le travail de Ryoji Ikeda, c'est en effet ce mélange de poésie et de lucidité critique. Hein, il arrive à la fois à livrer un regard extrêmement réaliste finalement sur ce monde abstrait des données, tout en les conduisant vers une sorte de dépassement et quelque chose qui est vraiment une expérience quasiment hypnotique d'absorption et de perception de la beauté aussi qui peut être créée à partir de cette nouvelle réalité.
Dans un autre registre, l'artiste Bertrand Dezoteux crée des films d'animation en 3D qui viennent questionner avec humour la supposée performance de notre société technologisée. Avec une esthétique du bricolage, il façonne des univers hétéroclites où cohabitent nature, robots et autres chimères numériques. Son film « Harmonie » était présenté au Centre Pompidou dans le cadre de Hors Piste en février 2019.
C'est un film de science-fiction qui décrit la découverte d'une planète, une planète baptisée Harmonie, par un envoyé de l'humanité, qui s'appelle Jésus Pérez, et donc l'allure d'un Christ, et qui va à la rencontre des habitants d'Harmonie, qui sont des sortes de chimères, moitié humain, moitié animal, même moitié végétal, des sortes d'hybrides, qui sont inspirés de tout un tas de références qui peuvent aller de Jérôme Bosch jusqu'au Pokémon.
Avez-vous déjà rencontré un être humain ?
Non.
Savez-vous ce que je viens faire ici ? Je viens rencontrer votre maître. Avez-vous un maître ?
Oui.
Dans cette satire visuelle et sonore, Bertrand Dezoteux donne à voir un environnement numérique clos, fait de déchets et d'artefacts technologiques. Le film décrit la condition d'un avatar numérique qui déambule dans un monde anti-tech où la maladresse l'emporte sur la notion de performance.
Il y a des références technologiques dans ce film, ou même un questionnement sur une certaine logique informatique qui viendrait créer des conditions de vie pour les habitants d'Harmonie. Donc par exemple, ils ne répondent que par oui ou par non, donc comme c'est des sortes d'êtres informatiques, langage binaire, il y a des sortes de procédés comme ça, d'analogie, de liens de sens, qui se demandent, mais comment est-ce que vivrait un avatar ? Quelle est la vie d'un avatar ? Et en effet, ça tisse un pont vers Second Life, qui était un peu une découverte importante pour moi. Le film s'amuse un peu avec la figure de l'explorateur, qui est une figure très importante dans ma jeunesse, justement, dans les films d'aventure ou les bandes dessinées, qui est aussi une sorte d'ethnographe. Donc, en fait, il arrive à la rencontre de cette population et puis il a des cadeaux. Et donc, ces cadeaux, finalement, sont des mots parce qu'il arrive avec des colis où il n'y a pas d'image dessus, mais il y a juste un mot ou une mention. Et ces mots, je les ai choisis. En fait, c'est une collecte de mots que je suis allé prélever dans tout un tas de domaines, mais surtout dans le domaine un peu à la fois du numérique, de la publicité. L'humour, c'est un peu le fil rouge aussi de mon travail, mais il n'est pas forcément compris, il n'est pas forcément perçu. Pour moi, l'humour, c'est un outil en fait de déconstruction des certitudes, et c'est une chose qui met à distance aussi. C'est pour ne pas te prendre trop au sérieux et avoir une perception du réel trop catastrophiste.
Bertrand de Zoteux navigue entre différentes temporalités et différents univers. Il fonctionne par collage, où s'entrechoquent des références diverses, puisées aussi bien dans la littérature de science-fiction, le jeu vidéo, que dans l'histoire de France. Il joue avec nos stéréotypes, recrée des mondes, des imaginaires, et s'amuse à caricaturer nos croyances techno-scientifiques. Depuis la ville de Lomé, au Togo, Sename Kofi Agbodjinou développe lui aussi une critique sur nos croyances et nos imaginaires technologiques. Tout à la fois architecte, urbaniste, designer et anthropologue, il a fait le choix de l'intervention concrète pour aborder la question de la ville, et plus particulièrement de la smart city, cette projection d'une urbanité saturée de nouvelles technologies.
Il s'agit de vous faire consommer énormément de technologies, et en cela la smart city est vraiment la synthèse de l'obsolescence programmée, puisque considérant que c'est un projet de ville produite par la technologie et que les technologies changent en permanence, et bien vous êtes obligé de consommer en permanence de la ville, que vous n'atteignez jamais, puisqu'il s'agit de la renouveler. Mais la critique peut-être la plus fine, c'est que tout cela nous mène à une vision dans laquelle l'homme n'est pas réellement épanoui. Et la smart city, c'est un peu l'écrin du super individu, c'est-à-dire quelqu'un qui est complètement affranchi et n'a plus besoin des ressorts du groupe, parce que c'est la technologie qui a écrasé toutes les structures sociales et qui se propose en pis-aller de tout ce qui vient normalement de la structure et du groupe. Je propose un décentrement, de regarder à la périphérie, que la solution peut peut-être venir de la périphérie pour pousser cette réflexion et essayer de trouver une porte de sortie en quelque sorte. Il faut avoir une attention aux géographies autres. Et qu'en Occident même, l'environnement guillemets conceptuel est tellement, donne tellement peu de possibilités et peu d'espace de se mouvoir qu'il est fort probable que la solution ne vienne pas d'Occident et qu'une vraie disruption ne puisse pas émerger en Occident. Et donc dans cette attention à des géographies autres, on devrait aller à quelque chose qui est en fait match assez idéalement avec les nouvelles technologies aujourd'hui, qui est, pour faire très simple, ce que j'appelle des algorithmes vernaculaires, ou une sorte de mathématique ou une computationnalité primitive. Et donc, il y a déjà de la technologie dans les contextes autres, voire très anciennes, traditionnelles, que cette technologie-là est en quelque sorte très naturelle, parce qu'elle procède beaucoup de l'observation de la nature et se cale dessus. Et d'ailleurs, retourner à ces technologies, à ces algorithmes et à ces computationnalités primitives peut être une solution, parce qu'elle, étant très proche de la nature, avait déjà mis en place des dispositifs qui permettent, dans le développement de la technologie, un peu en organique et en fractal, de ne pas s'isoler du reste et de tisser avec toute la création, en quelque sorte.
Ces principes, Sename Kofi Agbodjinou les met en pratique dans le cadre des Woe Labs, un réseau de tiers-lieux unique en son genre, qui se présente comme le premier projet africain de démocratie technologique.
Les Woe Labs, c'est un réseau de lieux, pratiquement dans chaque environnement, et dont la vocation est d'être un peu la matrice de la société numérique, telle qu'on peut la reconfigurer en mobilisant toutes les forces du commun, du libre, etc. C'est une expérimentation, hein, c'est la dimension en guillemets concrète d'une utopie qui est, elle, complètement théorique, qui veut montrer que on peut faire de la smart city ou on peut aller vers la smart city autrement en empruntant des voies qui sont plus celles du modeste. Et donc c'est une réponse au projet classique de smart city qu'on voit apparaître un peu partout en ce moment en Afrique. Donc en l'état où c'est aujourd'hui, on a deux lieux, c'est des lieux qui s'adressent à la jeunesse essentiellement du rayon de 1 de 2 km autour, mais ça s'adresse plus globalement en termes de réflexion à toute la communauté des gens qui s'intéressent à l'avenir des villes et à la question des smart cities.
Cette vision inclusive et accessible du numérique trouve sa déclinaison dans le mouvement des low-techs, qui pensent le numérique avant tout en fonction des usages.
Quand on parle, nous, de low-tech dans le cadre des WellApps, c'est déjà de recréer dans le contexte de la ville les conditions du village et de faire en sorte que les gens se reparlent et fonctionnent en groupe, qui est cette sorte d'organicité, en s'appuyant donc sur ces lieux concrets qui fonctionnent aussi comme des dispositifs très villageois, très traditionnels, qui sont les enclos d'initiation. Les enclos d'initiation dans la configuration du village, c'est le lieu où on met tous les jeunes pour les obliger à se parler, à passer du temps ensemble, à se connaître, et où on profite aussi, et c'est la deuxième couche du low-tech, pour voir quel est le potentiel de chacun et l'orienter dans la vie, mais par rapport aux ressources qui sont les ressources du lieu. Nous, on met les gens ensemble. Premièrement, c'est la première low-tech, voir comment vous faites les gens ensemble. Et après, évidemment, on va vers des technologies qui sont ouvertes, qui sont peu coûteuses en énergie, que la plus modeste des composantes du social peut s'approprier, c'est-à-dire pour moi, la petite vendeuse ambulante, tu vas pouvoir comprendre la technologie. Et c'est ça le crible, c'est le principe de sélection. C'est de ne prendre aucune technologie qui ne descend pas au plus bas, ou en tout cas où l'effort d'explication ne sert à rien dès qu'il s'agit de s'adresser à certaines couches de la population, et de travailler tout cela pour adresser des problématiques qui sont là aussi des problématiques de la proximité. L'idée, c'est vraiment, depuis un espace qui a 650 mètres carrés, régler tous les problèmes dans un rayon d'un kilomètre autour. Et à mesure que vous répliquez et qu'il y a des itérations et que vous avez comme ça sur toute la ville un réseau de lieux distants chacun de 2 km en quelque sorte qui adressent les problématiques, vous tendez de façon organique vers un smart territoire.
Cette approche du numérique fondée sur les usages, la tradition, le vernaculaire, convoque de nouveaux imaginaires technologiques, bien éloignés de l'idéal promu depuis la Silicon Valley. Et quel serait le rôle des artistes dans cette approche ?
Ce qu'il s'agit de faire, qui est de renouveler complètement l'entendement, va être peut-être très compliqué à faire pour des intellectuels, des hommes du sens, tout de suite, parce que eux restent très encore contraints par les institutions. Mais les artistes, justement, peuvent déblayer ces pistes-là et proposer une sorte de frivolité positive qui balise un peu ces nouveaux concepts et ces nouvelles configurations à inventer.
Esthétique, politique, publique, pratique, éthique, critique. Esthétique, politique, publique, pratique, éthique, critique. Esthétique, politique, autonomie, pratique, éthique, critique. Esthétique, politique, publique, pratique, éthique, critique. Esthétique, politique, autonomie, pratique, éthique, critique. Esthétique, politique, publique. Les deux sens de la flèche du temps.
Faut-il enterrer la notion de disruption ? À l'heure de l'accélération tous azimuts et de l'intrication toujours plus poussée des nouvelles technologies dans nos vies, la question numérique résonne d'une manière singulière sur le continent africain et sur tous ces territoires où la réalité de l'usage prime sur la productivité ou la performance. Aujourd'hui, il est plus que jamais nécessaire de poser la question de ce que serait un horizon collectif désirable et de questionner notre rapport au temps comme aux nouvelles technologies. Une tâche qui ne se fera pas sans les artistes, qui nous permettent à la fois de remettre en question nos stéréotypes, de densifier, de renouveler nos imaginaires et d'offrir des lectures alternatives d'un monde de plus en plus fragmenté. Le numérique, du nouvel Eldorado au cauchemar contemporain, c'était un podcast de l'École Pro du Centre Pompidou en collaboration avec l'ADN, le média de l'innovation. Écriture et réalisation, Nastasia Adjadji. Direction éditoriale et production, Héloïse Guénard et Clara Gouraud. Montage, Antoine Dahan. Mixage, Yvan Gariel. Entretien réalisé avec Xavier Delaporte, Bertrand Dezoteux, Marcella Lista et Sename Kofi Agbodjinou. Habillage musical, 6e son. Création musicale, Laurie Bellanca et Benjamin Chaval. Extraits musicaux, Aphex Twin, Windolicker. Bertrand Dezoteux, Harmonie, Ryoji Ikeda, Test Pattern 100, 2007.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.